de textes et de symposiums. Le premier au premier trimestre, c'était sur nature et morale. Le deuxième trimestre, ça a été sur la notion de liberté, si vous en souvenez. Et nous avions prévu donc pour le troisième trimestre une étude sur la notion de vérité. Vers la fin du séminaire, je vous donnerai les projets de programme pour l'année prochaine, si Dieu veut. Et d'autre part, il a été décidé que pour les conférences du soir, les portes seraient fermées au commencement de la conférence, qu'on puisse vraiment étudier et pas faire semblant d'assister à des meetings au sujet d'eux. Alors, on le dira ce soir pour tout le monde, et ça sera irréversible à partir de demain, essayez d'en tenir compte. Les conférences ont lieu à 8h30. On commencera le plus tôt possible avant 9h15, où les portes seront fermées. Donc, alors, quelques mots d'introduction avant que nous commencions l'étude de texte. En fait, comme vous le voyez dans votre programme, j'ai prévu l'étude d'un chapitre du Maharal sur... qui fait partie de son livre « Netivot Olam », où il étudie, c'est un livre en deux volumes, où il étudie les principales catégories de base de la tradition juive, et il consacre plusieurs chapitres à chaque notion. Et une de ces notions, c'est d'ailleurs la première qu'il étudie dans le premier livre de « Netivot Olam », c'est le « Netivot Torah », c'est-à-dire c'est une expression qui vient du Midrash, du Zohar en particulier, « les sentiers de la sagesse ». Native à Chochma. Alors chaque catégorie est intitulée un native. Native, ça veut dire un sentier, une voie, verrieux. Si nous avons le temps dans la semaine, nous prendrons un deuxième chapitre dans Native à Emet. Alors on vous a distribué les textes. Et il s'agit du chapitre 2, si je me souviens bien. Oui. Une brève introduction. La notion de vérité, et j'aurai à y revenir dans les introductions des conférences du soir. La notion de vérité a, en hébreu, deux contraires. C'est un principe auquel vous êtes déjà certainement familier. C'est soit le mensonge, soit l'erreur. Et c'est donc à ces deux niveaux que nous essaierons d'y réfléchir. Lorsque la conscience de l'homme cherche à satisfaire l'exigence de vérité, dans la signification philosophique de cette quête, disons, c'est d'abord le premier sens de la connaissance de la vérité, dépouillée, épurée d'erreurs, qui apparaît. Mais nous aurons à voir, par rapport à beaucoup de références, que pour la tradition de la Torah, c'est le mensonge qui est d'abord le contraire de la notion de vérité. Je veux dire par là qu'il s'agit d'une notion beaucoup plus proche de honnêteté, sincérité, rectitude, droiture. Un homme vrai, c'est un homme qui ne dit pas de mensonge, qui recherche la vérité en toute chose dans ce sens-là. Alors, bien entendu, les deux sujets s'entremêlent, mais on essaiera de prêter attention, de les distinguer chaque fois qu'il sera nécessaire. Alors, c'est pourquoi j'ai choisi, d'une part, un chapitre qui est dans la partie du livre du Maharal sur la Torah, la connaissance de la vérité, et un autre chapitre dans Netiva Emet, qui parle précisément de la notion de honnêteté de la conscience et de l'intelligence lorsque elle exprime sa relation à la vérité. Je vais vous dire très rapidement un peu le plan des conférences pour nous aider un peu à voir la structure de ce sujet. Alors, ce soir, la conférence d'introduction va tenter, c'est moi qui vais essayer de la présenter, de confronter deux perspectives de la recherche de la vérité. Celle de la tradition, qui est une exégèse d'une vérité révélée, la prophétie, et celle de la pensée humaine autonome, et dans notre culture, la culture occidentale, les catégories principales sont les évidences immédiates de la conscience philosophique. J'ai déjà fait allusion un peu hier, lorsque nous avons parlé de Jérusalem, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous étaient là, mais j'y reviendrai, sur le fait que nous assistons, semble-t-il, depuis un temps culturel assez nouveau, mais qui me semble important dans la diffusion de ce qu'on appelle, ou l'expression de ce qu'on appelle en général la pensée juive, à une sorte d'amalgame de ces deux perspectives. C'est pourquoi il nous a semblé nécessaire qu'il y ait une intervention sur ce sujet. Probablement, ça se dégagera dans les années qui viennent, de façon plus énergique peut-être. c'est-à-dire d'essayer d'y voir plus clair dans les attendus de l'étude de la tradition juive, d'une part par rapport à l'attitude philosophique et qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'elle représente, et d'autre part l'attitude que je vous appelle souvent traditionnelle, qui est l'exégèse d'une prophétie qui se présente comme telle. Je pense que vous percevez un peu l'intérêt de ce problème ainsi présenté, disons, exprimé. Alors, demain soir, c'est le rabbin Gilles Bernheim, qui est aussi un grand philosophe contemporain, d'ailleurs agrégé de philosophie, je crois qu'on ne l'a pas indiqué, et qui présentera, du point de vue méthodologique, les attendus, les règles, les présupposés aussi, mais surtout les contenus de la perspective de la vérité lorsque la pensée talmudique est occupée à des sujets de législation, la halakha, et lorsqu'elle est occupée à des sujets de signification, de compréhension, la Haggadah. Mercredi, c'est le docteur Prince qui présentera une analyse d'un enseignement du Midrash sur la notion de vérité. Et puis, jeudi soir, c'est le rabbin Wachnin, qui est aussi philosophe, qui traitera du sujet vérité scientifique et vérité théologique. C'est déjà une approche de la récapitulation que nous aurons le dimanche. Nous avions proposé ce sujet à des scientifiques au courant de la tradition talmudique, mais il n'était pas disponible malheureusement, et c'est le rabbin Wachnin qui a bien voulu accepter de traiter ce sujet, qui n'est pas simple, mais il le traitera en tant que philosophe, d'ailleurs je ne sais pas, il n'y a pas à préjuger, il le traitera à sa manière, et alors dimanche nous nous retrouverons pour la conférence de synthèse, dont le sujet a été formulé ainsi, y a-t-il une conception juive de la vérité? La formulation du sujet est un peu bateau, est un peu banale. Je vous dis tout de suite de quoi s'agira-t-il. C'est l'éclairage, la mise au point de la notion d'une vérité révélée. S'il y a une spécificité de la conception juive de la vérité, il ne peut s'agir que de la vérité révélée. Et nous aurons donc à réfléchir, à nous confronter sur ce problème. J'espère que le sujet ne sera pas trop difficile. En tout cas, cela nous aidera à récapituler énormément d'analyses, de connaissances, de réflexions qui me semblent importantes dans le temps culturel contemporain que je vous ai décrit tout à l'heure. Bien. Alors ce matin, nous allons commencer directement l'étude de texte et nous allons d'abord, je vais lire et traduire le premier paragraphe d'introduction de toute une série de références talmudiques et midrashim que le Maharal va analyser sur le sujet « Les conditions morales de l'authenticité de la connaissance ». Ou, si vous voulez, d'une autre manière, les vertus indispensables que l'on doit acquérir préalablement à la recherche d'une vérité de la connaissance en ce qui concerne, bien entendu, la Torah. Nous sommes dans Netivat Torah. Voilà, alors nous allons lire. Vous établirez la traduction dans vos notes, comme cela pourra vous aider. Et puis, chaque fois qu'il y aura un sujet à approfondir, je vous donnerai la parole et puis on l'étudiera en étude, à proprement parler. Alors, Mipene Kia Torah ou Asechela Elion. Alors, bien entendu, il faut se référer aux enseignements précédents du chapitre 1er. D'ailleurs, pour les hébraïsants, je vous conseille d'étudier par vous-même tous les contextes de cet enseignement. Je pense que ce livre, Netivat Torah, mais facile à trouver en librairie. Et j'aurai l'occasion et la nécessité à chaque fois de tenter d'éclairer la signification que les termes principaux ont dans le langage de l'enseignement du Maharal en particulier. Alors, Mipene, qui a Torah ou Asechel Ha'Elyon, par le fait que la Torah, c'est l'intellect supérieur. Sechel, ça veut dire l'intelligence. La capacité de connaissance par les facultés intellectuelles de l'homme. Et Sechela Elyon, l'intellect ou l'intelligence supérieure, ça veut dire la plus abstraite possible, dégagée de toutes les contingences de l'ordre de l'image de représentation matérielle qui risque d'être évoquée à propos de telle ou telle connaissance au niveau du Sechel. C'est-à-dire le Sechel n'est authentique que s'il est véritablement abstrait, dans le sens strict du terme, c'est-à-dire abstrait de tout ce qui viendrait le rendre impur du point de vue des représentations imaginaires qui procède de des sensations, des perceptions, des émotions, ou d'une façon générale, tout ce qui concerne la vie matérielle, corporelle, terrestre. Alors nous sommes d'emblée dans une définition très élevée, très haute, de l'authenticité de la connaissance en tant qu'acte et en tant que comportement et en tant que contenu, que le Maharal a déjà élucidé dans le chapitre précédent. Mais je voudrais ajouter une indication que nous retrouverons à propos de plusieurs analyses et qui est très convergente avec un enseignement de Maïmonide, du Rambam. Vous savez qu'il arrive que le Maharal, qui est postérieur au Rambam, soit en controverse avec le Rambam sur un certain nombre de sujets de confrontation entre les perspectives de la connaissance philosophique, c'est-à-dire autonome, l'homme pensant par lui-même en se reliant avec l'objet de la vérité, et d'autre part, la tradition de la prophétie, où le processus de connaissance est inverse, absolument inverse, radicalement inverse, et nous l'aurons à élucider ce soir, où c'est la vérité qui se révèle à la connaissance de l'homme, à la capacité de connaissance de l'homme. Alors le Maharal, dans deux endroits de son œuvre, dans le Mishneh Torah, de façon très systématique, et dans les Shmoneh Prakim, où il consacre un chapitre particulier au thème que je vais indiquer, et c'est diffus, de façon généralisée, dans le Guide des Égarés, met en garde à l'irruption des passions dans la recherche de la vérité, dans la recherche de la connaissance. C'est-à-dire, si quoi que ce soit de la vie affective se projette sur les comportements de l'intelligence, les comportements de la pensée, la vérité disparaît. La vérité est atteinte. Elle est atteinte par cette projection des émotions et des passions sur la vie intellectuelle. Je reprendrai avec un autre vocabulaire encore. C'est peut-être une notion étrangère à la culture contemporaine, mais ce n'est qu'une apparence. Les grands penseurs de la culture occidentale ont toujours mis en garde contre ce danger de l'irruption des passions dans la recherche de la vérité. En termes un peu plus contemporains, dans un vocabulaire plus proche de la psychologie, je dirais que Maïmonide nous avertit qu'il est nécessaire d'une guérison d'une effèche, d'une guérison de ce que nous pourrions appeler la vie psychique avant d'oser aborder l'étude de la Torah. Ou encore, dans un autre vocabulaire, il y a une catharsis, une ascèse, une thérapeutique de la vie intérieure qui est nécessaire, parce que sinon on fait dire à la vérité qui se révèle ou qui se dévoile ce qui est le fond des préoccupations, j'ajouterais inconsciente pour parler un langage moderne, du monde des passions. Et ceci, Maïmonide le dit en clair, il faut d'abord une guérison de l'esprit, une guérison de l'irruption des tendances et des passions, avant de pouvoir aborder la relation à la vérité. J'ouvre une petite parenthèse. Vous savez qu'on s'est habitué un peu, lorsqu'on traite de l'étude en milieu juif, de dire des formules qui sont finalement devenues banales et parfois nocives. Toutes les opinions sont possibles, mais qu'y a-t-il derrière les opinions? N'y a-t-il pas souvent l'irruption du caractère de celui qui opine? Et le caractère de celui qui opine, finalement, mettez opine entre guillemets, c'est le sens cartésien de l'ancien français, finalement, a des problèmes psychologiques, a des problèmes personnels. Or, l'objet de la vérité, c'est la signification de la destinée humaine, en fin de compte, l'objet de la vérité recherché dans la Torah, pour sa part, ou d'ailleurs dans l'enquête philosophique pour la sienne, c'est la signification de la destinée humaine, et ce sont les grands thèmes de l'identité des relations de l'homme avec lui-même et avec l'environnement social et donc familial qui sont en jeu dans cette recherche de la vérité. Et il faut donc être très prudent de débarrasser cette quête de la vérité de tout ce qui risquerait de l'handicaper, de la rendre impure à cause de problème passionnel non résolu, ou encore une fois dans un vocabulaire encore très proche, même un petit peu différent. Je crois que les psychologues le comprendront de façon directe. Il faut faire une psychanalyse du sujet de la pensée, avant que la pensée ne se révèle dans sa pureté supérieure, dira le Maharal. C'est-à-dire l'intelligence authentique, simple, dépouillée, encore une fois, de toute option, plus ou moins insidieuse, des passions. J'ai un peu intentionnellement accusé cette remarque, parce que si l'on n'a pas la passion de la vérité risque aussi de s'évanouir. Mais j'espère que vous avez compris dans quel sens je voulais parler. C'est encore une fois de dépister les tendances du je qui pense. Un mot d'esprit qui me vient à l'esprit. Je veux dire que l'esprit authentique cache son je, mais je avec J-E. Vous comprenez ce que je veux dire? Okay. Bien. Il y a là une convergence très remarquable entre ce que nous dira le Maharal de l'abstraction des choses matérielles et ce que nous dira Maïmonide des passions. Et nous essaierons d'ailleurs de voir dans chacun de ces deux registres, surtout celui du Maharal, puisque c'est son texte que nous étudions, de quoi s'agit-il concrètement ? C'est-à-dire, quels sont les signes des vertus indispensables à la pensée vraie ? Encore une fois, il y a des conditions morales à la connaissance, et pas seulement des conditions intellectuelle. Ça sera l'objet de ce chapitre sur une vertu particulière et importante qui est la vertu de modestie, comme nous allons l'étudier en général. C'est un thème d'ailleurs assez familier aux étudiants du Talmud et du Midrash. Mais nous verrons qu'il ne s'agit pas simplement là de piété habituelle ou disons de concession à la piété. Il s'agit d'une condition indispensable pour que la pensée vraie soit authentiquement vrai, pour que la pensée, dans sa recherche de la vérité, ait des chances d'être authentique. Ce n'est pas simplement l'adjonction de deux registres de l'expérience spirituelle, les vertus de la moralité, l'humilité est une vertu pour elle-même, et d'autre part, la vérité de la pensée. L'une est la condition de l'autre, va nous enseigner le Maharal. Alors, je continue la lecture de cette introduction. Il pene qui a Torah ou a Sechela Elion. Par le fait, comme nous l'avons déjà appris dans le chapitre précédent, que la Torah et l'intelligence supérieure avaient caché l'iknot à Torah chez ou Sechel Ha'Elyon, et qu'il est difficile d'acquérir la Torah qui est l'intelligence supérieure, parce qu'il y a des obstacles. Nous retrouvons là une notion qui nous est déjà familière. Le contenu de la vérité qui se révèle dans la Torah n'est pas naturel à l'être de nature, n'est pas connaturel. Donc, à la pensée humaine considérée comme pensée d'un être de nature, pensée naturelle. Et puisque cela n'est pas naturel, cela doit être acquis. Or, cette acquisition n'est possible que si on a débarrassé les obstacles. Or, encore une fois, les obstacles procèdent de l'autonomie du sujet de la pensée dans sa condition d'existant, je voudrais dire de créature. L'homme n'est pas une pensée pure d'abord. L'homme est une pensée insérée dans tout un réseau d'intérêts nécessaires à sa vie, qui en fin de compte s'exprime dans les tendances et dans les passions. Or l'objet, c'est précisément d'arriver à connaître la vérité radicalement abstraite et dégagée de tout intérêt de passion, d'où ces obstacles. L'achar, et c'est la raison pour laquelle il est nécessaire qu'il y ait pour l'homme une préparation, pour recevoir la Torah. La coïncidence du calendrier fait que nous sommes à la veille de Shavuot, enfin je dis entre Pessah et Shavuot, qui est cette période de préparation à la réception de la Torah qui se révèle à Shavuot, à la fin de cette période du Homer, comme vous le savez. Et donc, il y a une espèce de convergence des préoccupations. Il y a une assaise préalable à l'exercice de l'intelligence comme intelligence, de la connaissance comme connaissance. Et cette assaise est de l'ordre de l'assaise morale, mais dirigée vers l'objet de la vie intellectuelle, c'est-à-dire la vérité. Celui qui n'a pas cette préparation, cette achana, même s'il a la capacité intellectuelle de comprendre les idées, n'atteindra pas à travers ses idées la vérité de ses idées. Parce que cette vérité est cachée par ses propres intérêts passionnels. Ou d'une autre manière, il fait dire à la vérité ce qu'il souhaiterait qu'elle dise pour le justifier dans le monde de sa vie intérieure, qui est, comme disent les poètes ou les philosophes, le jardin secret de chacun, et que certains médecins arrivent à explorer à l'insu même des patients. Ces médecins, on les appelle des psychologues. Je pense que c'est clair, ce que j'indique là. Il y a encore une fois une convergence assez étonnante entre le Maïmonide, qui est un grand moraliste, avant d'être un philosophe, à mon sens, nous en avons parlé il y a quelques années, peut-être, et d'autre part, le Maharal, qui est peut-être un de ceux qui, de la façon la plus grande, la plus géniale d'ailleurs, nous a donné cette clé d'un langage de trait d'union entre ces deux problématiques de la vie de la pensée aussi radicalement différentes, l'exégèse de la prophétie biblique, d'une part, et d'autre part, l'univers de la réflexion philosophique. Il l'a fait en ce qui concerne son temps culturel, mais c'est un temps culturel de grande valeur, c'est le temps de la Renaissance d'ailleurs. Le Maharal est un des grands penseurs du temps de la Renaissance. Il a été d'ailleurs en contact personnel avec les grands penseurs non-juifs de ce temps de la Renaissance. Le professeur Neher a consacré d'ailleurs un de ses ouvrages à ce problème. Mais malgré tout, sa méthode reste absolument valable pour tous les temps culturels dans l'histoire de la philosophie, le nôtre y compris. Et nous verrons avec encore plus de détails à travers son texte à quel point il y a un problème d'honnêteté qui est indispensable à l'éclairage de cette pensée de confrontation entre l'univers de la méthode de réflexion immanente à l'homme. En fin de compte, elle se dévoile de façon, comme je dis souvent, parfois très sophistiquée, très élaborée, très riche de contenu, et puis chacun ayant son style, parfois très brillante aussi, dans l'univers des philosophes. Et d'autre part, la connaissance de l'exégèse de la prophétie biblique en tant que vérité révélée de l'extérieur de la conscience humaine à l'homme en quête de, encore une fois, de la recherche de cette vérité. Voilà donc pour les trois premières lignes. La notion importante qui apparaît, c'est que, étant donné la différence de nature entre le monde de la vérité et celui de la réalité dans lequel nous existons, la capacité pour la pensée de l'homme de se relier au monde de la vérité, qui entraîne une exigence, hors de quoi l'homme n'est pas l'homme, cette difficulté-là, apparemment, peut se présenter à nous comme insurmontable. Ce sont deux mondes de nature radicalement différentes. L'intelligence pure d'un côté, dégagée de toute imprégnation de réalité, et encore une fois, cela se traduit au niveau des images que la pensée qui s'évoque à propos de telle ou telle pensée, et ces images sont toujours affectives, sont toujours chargées de charges affectives, de passions, d'intérêts, et il y a des intérêts nobles et légitimes, mais, et puis, d'autre part, le monde de la réalité, qui fait que si une vérité n'intéresse pas la réalité, elle est peut-être gratuite. Et tous ces obstacles-là s'accumulent. Et il faut donc débarrasser les obstacles de ce natif, de cette voie de recherche de la connaissance. Et c'est cette ascèse dont le Maharal nous parle, et dans ce chapitre en particulier par rapport à la vertu d'humilité. De quoi s'agit-il? Nous allons le voir immédiatement. Or, cette préparation qui est nécessaire à la Torah, comporte beaucoup de choses. Il y a une Mishnah des Pirkei Avot qui indique que près de 48 vertus différentes pour y arriver. J'espère que nous y arriverons au dernier cours vendredi. Je vous récapitulerai ces 48 vertus que la Mishnah indique. Une d'entre elles, la principale, comme nous allons donc le voir, c'est la vertu d'humilité. Donc, ahana shetzarich la Torah hem devarim arbe meot ad shehu raoui la Torah, jusqu'à ce que l'homme, le sujet de la pensée, le sujet pensant, soit raoui, convenable, si j'ose dire, cachérisé suffisamment cachérisé, suffisamment rendu cachère pour être lié à la Torah. Je pense, vous savez que ça veut dire cachère, elle est appropriée à, suffisamment préparée pour. D'ailleurs, c'est un des sens de la racine d'où vient le mot cachère. Petite parenthèse linguistique, en réalité, ce mot doit se dire cachir et non pas cachère. C'est une déformation qui vient à travers le yiddish. Qui disait kosher, et puis alors en hébreu moderne, imprégné de yiddish, comment dire, littéraire d'ailleurs, c'est devenu kasher en apparente prononciation sfaradite. En réalité, le mot hébreu, c'est kashir, comme disaient les anciens sfaradim d'ailleurs. Je pense que c'est clair. Okay. Ce mot de kasher n'existe pas en hébreu réel. Okay. Donc, et... c'est raoui dans ce texte, convenable, qui mérite, approprié, le fait que ce soit possible, raoui et la Torah. Ki ha adam hu ba'al guf. Regardez comment le langage du Maharal est très précis. Car l'homme est possesseur de corps, ba'al guf. Je dirais dans ce problème, il est handicapé par son corps. Son corps, encore une fois, dans la question que nous étudions, c'est sa vie affective. Sa vie affective, je veux dire, lors de ses intérêts, de ses passions, qui sont nécessaires pour que son insertion dans la vie du corps, et à travers la vie du corps, dans le monde de la réalité, et cette insertion dans le monde de la réalité, a un objectif, a une raison. C'est nécessaire, sinon nous ne serions pas là, traversant l'histoire de ce monde-ci. Donc c'est nécessaire, c'est un autre sujet. Mais... quelle que soit cette nécessité très importante de passer par la vie corporelle, cette vie corporelle handicape la relation avec la Torah. Dans le chapitre précédent, le Maharal a très précisément démontré, il revient dans le chapitre suivant, que l'ordre de la Torah, c'est l'ordre du monde à venir. Or, c'est dans ce monde-ci que nous devons acquérir la connaissance de la Torah pour avoir porte d'entrée, disons, au monde à venir. Et donc, apparemment, c'est une entreprise extrêmement difficile. Comment, dès ce monde-ci, se relier au monde de la Torah, qui fait partie de l'ordre du monde à venir? Apparemment, c'est impossible. Or, ça va être le privilège de ceux qui y accéderont, les Talmidei Chachamim, mais le Maharal insiste, il n'est pas le seul, j'ai cité Maïmonide, je pourrais vous citer énormément de grands maîtres, surtout le Mesilat Yesharim, par exemple. Il faut une ascèse morale qui nous permet de surmonter cette difficulté. Être de ce monde-ci tout en étant pas pendant l'étude de la vérité. Il y a deux écueils ou deux dangers à éviter. Être tellement de ce monde-ci que l'accès à la Torah devient impossible parce que la Torah est rendue impure, elle n'est pas de ce monde-ci. Ça a un autre sens que l'expression habituelle, qu'elle. Ou d'autre part, se dégager complètement de ce monde-ci pour pouvoir être disponible pour la Torah, alors à ce moment-là, ça n'a plus d'intérêt, parce que c'est dans ce monde-ci qu'il faut connaître la Torah pour le monde à venir, mais en expérience de ce monde-ci. Vous voyez que ce n'est pas simple comme problème. Eh bien, la réponse du Maharal, c'est que la cesse des vertus morales seule peut le permettre. Et après seulement, on parlera comme quelque chose qui va de soi, des capacités intellectuelles. Mais si j'ose dire mettre la charrue avant les bœufs, privilégier les exigences de l'intelligence comme exercice intellectuel avant l'ordre des valeurs de la moralité indispensable pour l'honnêteté de la pensée, eh bien, rend l'accès à ce projet impossible. Je pense que c'est suffisamment clair. Hein, les érudits d'entre vous retrouvent là une Mishnah de Pirkei Avot. Colmi shehirat heto kodemet lehormato, hormato mitkayemet. Colmi shehormato kodemet lehirat heto, hormato enam mitkayemet. Je traduis, je vous donnerai la parole. Celui dont la crainte de la faute précède la sagesse, sa sagesse se réalise, se maintient, mitkayemet. Elle acquiert la dimension irréversible de l'éternité d'un savoir. Celui dont la sagesse précède la crainte de la faute, sa sagesse ne se maintient pas, ne se réalise pas, n'a pas de base, n'a pas de fondement, finit par disparaître. Simplement une petite indication qui me semble importante pour ceux qui peuvent suivre l'étude de cette Mishnah, c'est un sujet pour lui-même. La Mishnah dit « Kolmi sheirat heto kodemet la chochmato ». Irat het, ça veut dire la crainte de la faute. Il y a là une émotion morale très fine. La crainte de faire une faute. Bon, ce n'est pas la crainte du châtiment éventuel, d'une faute éventuelle, ça c'est irata onesh. C'est une autre catégorie, qui a sa propre valeur d'ailleurs, mais qui est inférieure. C'est irat het, la crainte de risquer de faire une faute, qui vient de l'expérience de la liberté. Nous sommes exposés à risquer la faute, avoir peur de cela. Et il s'agit vraiment d'une peur, d'une crainte. Il ne faut pas avoir peur ni crainte des mots. Et il y a dans la Gemara, dans Sanhedrin, une image extraordinairement profonde, c'est plus qu'une image, qui se base sur un verset du Shir HaShirim, où la bien-aimée du Cantique des Cantiques est appelée Suga Bashoshanim, sainte de rose. Suga Bashoshanim. Vous savez qu'on a l'habitude de traduire Shoshanim par la rose. En fait, c'est le lys, mais ce n'est pas grave. Il y a un lys rose, d'ailleurs, mais ce n'est pas grave. Et la rose se dit Vered. Pour ceux qui savent l'arabe, c'est le word, c'est le même mot, la même racine. Warda, vous connaissez cette racine, c'est un nom de jeune fille d'ailleurs, je crois. C'est pas Varda, ça c'est russe, mais enfin, ça peut être ça ou ça. Et alors, voilà, la Torah est préservée par cette pudeur de la crainte de la faute, comme la virginité du jeune fille est préservée que par une ceinture de rose. Et que l'homme de moralité a peur d'ouvrir cette ceinture de rose, alors qu'avec un clin d'œil du petit doigt, il pourrait le faire. Est-ce que c'est clair? C'est une image extrêmement profonde. Suga Bashoshanim. Et avant d'aller plus loin, si vous avez une question. Vous voulez que je prenne une petite parenthèse. Le problème des fils d'Aaron, c'est que leur enthousiasme du service divin a fait qu'ils ont dépassé les consignes du culte et offert un sacrifice en l'allumant avec un feu qui venait d'eux-mêmes, Eshzara, c'est bien cela que vous pensez. Et alors ils ont été incendiés par ce feu-là, punition absolue, annulée. Le contenu de leur comportement était un enthousiasme authentique, mais non légitime. C'est relié au fait, la Gemara qui l'a dit, je me souviens d'avoir entendu vous il y a très longtemps, vous avez entendu parler de monsieur Shushani, pas Doufshani, Shushani, okay, confondez pas les... Bref. Et les uns et les autres, quoi. C'est un grand talmudien, enfin génial. Il nous disait, en ce qui concerne les comportements de sainteté, il ne faut pas changer les règles. Si par exemple le grand prêtre, au moment d'offrir le sacrifice, se dit c'est tellement beau, c'est tellement important, c'est tellement saint, il ne peut pas faire ça avec les mains nues, se met des gants blancs, passible de mort. Et pourtant, c'était une bonne intention. Je me souviens de l'expression les gants blancs. Je crois que ça avait dû le frapper ce jour-là. Eh bien, c'est un peu cela. C'est-à-dire que il manquait, si vous voulez, cette retenue qui vient de la crainte de porter atteinte à un certain ordre qui nous dépasse. C'est une sorte d'attitude de scrupule qui sert de frein au débordement de l'enthousiasme. Est-ce que c'est un peu cela? Oui, ben c'est cela. Et c'est d'ailleurs une vertu très proche de celle que nous sommes en train de commencer à étudier, de l'honnêteté. Nous y reviendrons d'ailleurs. Je reviens donc à la phrase qui commence par Ki Adam hu Baal Gouf. Je crois que c'est important de le signaler, car l'homme possède un corps. On pourrait se dire, mais c'était tellement simple s'il n'en possédait pas un. Alors, ça, il ne faut pas oublier, c'est un sujet pour lui-même, que c'est nécessaire de connaître cette. aventure dans la vie de la réalité qui est la vie de ce monde-ci. C'est nécessaire pour la destinée de chacun. Mais étant donné cette nécessité, alors il y a ce handicap. Et il faut en être conscient, averti, on avance. Ubalgu, Vatora, hi, Sechel Eloki. Regardez le chidouche du Maharal. D'abord, il avait dit à Sechel Aelion. Et encore une fois, Sechel Aelion, l'intelligence supérieure, ça veut dire, je crois, le terme en français philosophique le plus approprié, c'est abstrait dans le sens étymologique, extrait, et donc en dehors de tout handicap de l'image de réalité. Parce qu'encore une fois, toute image de réalité enveloppe un intérêt passionnel, et la passion est suspecte. Je citais tout à l'heure l'expression de « opinion »,« opiner », c'est bien dans ce cours, Ken. C'est-à-dire préférer penser comme cela plutôt qu'autrement. C'est ça une opinion. J'opine, ça veut dire je suis mené à préférer de dire ou de penser cela comme ça plutôt qu'autrement. Et d'où vient cette opination, si vous voulez, qui risque d'être souvent opiniâtre d'ailleurs. Eh bien, ça vient des hormones, enfin des hormones spirituelles, bien sûr. Je veux dire, ça vient du caractère, ça vient de la manière d'être de chacun. Ça vient finalement des passions. Est-ce que c'est clair ce que je dis là, okay. Et il faut avoir la lucidité et la maîtrise suffisante pour déceler au-delà des tensions entre des vérités ou des idées ce qui est vraiment en jeu dans l'ordre des motivations. De telle sorte de ne pas risquer de faire dire à la vérité ce qu'elle ne voulait pas dire. La vérité ne peut être entendue que par quelqu'un qui est au bout de la catharsis absolue de l'équation personnelle, au-delà de cela, sans l'abandonner. C'est le grand mystère, mettez ça entre guillemets, vous savez que j'aime pas ce mot-là, de la personnalité de Moïse, que la vérité a pu traverser, et c'est en cela que Hormato Mitkayemet, parce que Moïse s'est rendu transparent au niveau de ce dont nous parlons, c'est-à-dire de l'intéressement des passions, si j'ose dire. Est-ce que c'est clair? Vous voyez à quel point nous sommes loin d'habitude de penser dans l'ordre des évidences de la foi, de traditions différentes, d'autres traditions. Et on n'a jamais le temps de tout dire à la fois, c'est-à-dire différentes facettes du même problème, on peut les énumérer. J'espère que là, il y a un centre de la réflexion qui est extrêmement important. Très souvent, dans l'étude, on a la tentation de dire « Mais est-ce que peut-être on ne pourrait pas dire que ?» Alors, le maître a toujours tendance à dire « Et pourquoi ? Qu'est-ce qui te fait dire que ?» Est-ce que c'est clair ce que je dis là, okay. Vous voyez à quel point l'étude n'est pas chose simple si on étudie avant cette préparation d'ascèse, d'évacuation des passions. Je pense que c'est clair. Quelqu'un voulait pas ?
Je ne sais pas si c'est à propos de la poser, mais le Yetzer Hara, on doit le mettre aussi au service de la recherche de la vérité. Est-ce que tu pourrais illustrer un peu qu'est-ce que ça veut dire par rapport à ce que tu as dit là ?
Il pourrait le faire par toi-même. C'est-à-dire que...
Parce que c'est plutôt de l'ambition.
C'est un sujet pour lui-même, bien entendu. Et encore de l'ordre de l'égoïsme, c'est de cela que je parle. Okay. Alors lorsque la sublimation de l'égoïsme est suffisamment réussie, alors le Yetzer Hara lui-même se met au service de la vérité. C'est-à-dire, encore une fois, le terme de Yetzer Hara ici récapitule l'ensemble du faisceau des passions qui sont nécessaires pour que j'existe. C'est ça l'égoïsme. Okay. Et lorsqu'il est suffisamment transfiguré, sublimé, alors, c'est ça que tu penses. Okay. Voilà, est-ce que c'est clair?
La peur,
je le dis une fois.
C'est
quoi?
La peur, la crainte de la force.
C'est pourquoi la sagesse. C'est pourquoi la sagesse ne peut être que le propre des skenim. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Je vais traduire. C'est pourquoi vous savez qu'en hébreu, pour dire un véritable sage, au-delà de Hacham, on dit Zaken. Il y a le temps de ceux qui doivent agir et le temps de ceux qui doivent savoir. Le drame de la société, c'est que ceux qui agissent et ceux qui savent ne s'aiment pas entre eux. Bon, mais c'est le problème des fils et des pères. C'est pas pour rien que le point d'impact de la fin de la prophétie, c'est ce problème-là. Il y a en français une formule extrêmement claire. Ah, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. C'est ce problème-là. Okay. Effectivement, on le retrouve dans des consignes de la Torah qui sont très importantes. La différence de fonction entre le roi et le prêtre. C'est-à-dire, le prêtre n'a pas le droit d'être roi et le roi n'a pas le droit d'être prêtre. C'était les Sadducéens qui ont bousculé cela. Vous savez pourquoi? Parce que on ne peut pas être disponible à la fois pour l'action et la connaissance. Alors, s'il n'y a pas le lien, ce lien est très plein, nous y reviendrons, je vais anticiper, entre ceux de l'action et ceux de la connaissance, vraiment un lien d'unité, il y a échec. Donc, vous avez raison de le signaler. Okay. Mais au moment de l'étude, il faut se mettre entre parenthèses et ensuite revenir dans la réalité. Elle ne peut être éclairée que par une vérité vraie. Mais si la vérité a été faussée parce qu'on veut lui faire dire ce qu'on voudrait bien entendre qu'elle dise, et il faut encore une fois psychanalyser la motivation, ça suffit. Okay. Voilà, vous avez compris quel est le problème. Attendez une minute, c'est pourquoi nous voyons ces consignes traditionnelles que la sagesse doit venir des stimuli. Alors, bien entendu, il s'agit d'âge mental.
C'est clair. Mais toujours quand même, puisque la maturité intellectuelle ne va pas, vous avez dit toujours, de pair avec la maturité du cours, quel que soit l'âge.
C'est ce que je viens de dire. C'est pourquoi je disais un âge mental. Je ne sais pas pourquoi il y a des gens qui aiment les pastilles à la menthe, ça aide, le mental. Il y a un diagnostic à faire.
Zekana Chokma.
Non.
Zekana Chokma.
Zaken Zekana Chokma. Je crois, il me semble l'avoir étudié une fois, c'était ici. Il y a une connaissance qui vient de l'information, du contenu, du médar, madar. J'ai appris. C'est surtout intellectuel. Il y a une connaissance qui vient de l'expérience de l'âge, indépendamment du contenu des connaissances. Qu'est-ce que c'est clair? Par exemple, vous avez consigné dans la racha, si on a une question à poser, on peut la poser à deux sages différents, dans lequel on préfère le plus âgé. Est-ce que c'est clair? C'est simple. Mais encore une fois, bien entendu, il s'agit de l'âge de maturité qui n'est pas forcément de l'âge des années. Okay. Vous connaissez la Mishnah de Lazare de Nazaréa, il y en a dans le Pessah, Are Ali Keven Shiri Shana, le Zachiti Shita Mer. Vous rappelez de cette Mishnah, Bien, c'est à propos de Rabia qu'on a enseigné cela. C'est le vin nouveau dans les autres vieilles, et le vin vieux dans les autres vieilles. C'est l'idée est claire. Hein?
Pour produire un renouvellement de sens dans les textes qu'on étudie.
Il vaut mieux dire. Je veux dire. Il y a un enseignement, c'est pas dans ce chapitre, qui est sur un verset des psaumes. Un verset, dans le sens que vous connaissez, c'est le choix du chef. On parle d'Eskenir, on dit Deshenim de la Anim. C'est-à-dire qu'il y a une bénédiction de promesse pour les vieillards d'Israël. Plus ils sont vieux, plus ils sont jeunes. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Une différence entre un vieux et un vieillard. Et alors que les Talmud et Chachamim... Le signe, quel que soit leur âge, parfois très très avancé, eh bien, et ils ne sont pas... comment on dit ça en français? Vous comprenez l'idée? Ils ne sont pas... Sénil, voilà. Deshenim bera'alanimiyu. Et il y a beaucoup de références à ce sujet. J'avais un professeur de lettres au lycée, en lettres classiques, c'était français, latin, grec, qui s'appelait M. Monio. C'est un grand joueur de tennis en plus. Bon. Et alors, il nous disait cela, je crois que je l'avais cité une fois, quand on fait des poésies à 17 ans, c'est peut-être qu'on a 17 ans, tout simplement. Mais si on fait des poésies à 70 ans, eh ben c'est peut-être qu'on est poète. Ça, c'est un peu différent. Oui, c'est vrai. Est-ce que c'est clair? Il y a énormément de consignes. Ce n'était pas le sujet de ce chapitre. Énormément de consignes de la valeur, de l'expérience de ce qu'on appelle, par un terme qui est finalement très clair, de la maturité. Il y a une majorité intellectuelle qui est en réalité reliée à une maturité morale. Ça va ensemble. Et alors, il faut du temps pour cela. C'est le problème des critères de choix des juges.